Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à partir de 21h.
Et merci d'écouter La Clé des Ondes. Il est midi 10 sur notre antenne, sur le 90.10 ou sur laclédesondes.fr. Vous le savez peut-être, toute cette semaine a lieu au sud de Bordeaux, du côté d'Uzest, le fameux, le traditionnel festival d'Uzest, avec toute la semaine au programme des concerts, des spectacles et aussi des débats. Pour ce qui est de La Clé des Ondes, on diffuse chaque soir de 19h à 20h l'émission de Radio Uz. Radio Uz, c'est la radio éphémère qui émet depuis Uzest pendant toute la durée du festival. Eh bien, on a reçu ce matin également un débat, l'enregistrement d'un débat qui avait lieu hier matin à Uzest, débat sur la liberté de la presse qu'on vous propose d'écouter tout de suite.
Tous les matins de ce festival d'Uzest se déroulent à 10h dans le parc de la Collégiale les entretiens du lavoir. Et les entretiens du lavoir du lundi 19 août portaient sur la question cruciale de nos jours de la liberté de la presse. Intervenez dans une table ronde Antoine Chao, journaliste, Marie-Josée Sirac, journaliste critique dramatique, et José Ruiz, journaliste retraité de France Bleu, bien connu des Girondins. Ces dernières années, on peut mesurer à quel point la place des médias dans la bataille idéologique qui se déroule est importante. Il y a eu des pressions, des menaces, des licenciements, même à Radio France, tout le monde en a entendu parler dans l'année qui vient de s'écouler. Il est question même de privatiser Radio France dans le programme de gens comme le Front National. Et donc, cette situation est alarmante. Mais il y a aussi des alternatives dans la presse numérique, dans la presse en ligne, des alternatives radio, des alternatives TV. Et donc, ces alternatives montrent peut-être des voies pour l'avenir, pour pouvoir défaire l'information de la loi du marché. En tous les cas, c'est de cela dont discutent les intervenants de cette table ronde, lundi 19 août, à Uzest.
Du lundi 19 au samedi 24 août 2024, Radio Uz sur La Clé des Ondes.
Le studio d'essai de la radiodiffusion française présente
Radio Uz,
la chronique sonore de Paris libéré. Enregistré dès le dimanche 20 août, durant les 5 derniers jours de l'occupation allemande, ces documents assurément incomplets et d'inégale qualité sont authentiques. Forcés de mêler la grande histoire de la libération de Paris à celle anecdotique de la libération des antennes françaises, ce montage n'a d'autre mérite que de vouloir fixer pour la mémoire des Français ces rumeurs et ces cris, ces proclamations, ces silences qui sont l'accent de ces journées inoubliables. C'est l'œuvre d'une équipe unie par le métier et par la résistance.
Pour la 47e Estellada de la Sarthe, Uzest musical.
Dans la cabine du studio, l'équipe est au complet. On ne le dit pas, mais on sent que dans l'histoire de la radio française, ce moment est historique. Tous les visages sont tournés vers moi et j'ai la sensation d'être déjà dans un nouveau monde, d'avoir quelques instants d'avance sur les auditeurs qui vont entendre dans quelques instants la phrase libératrice. J'ai la gorge tellement sèche que j'ai peur de bafouiller. La Marseillaise s'achève. La petite lampe rouge du micro s'allume.
Ici, radiodiffusion de la nation française.
C'est tout.
Bonjour. Bonjour, merci d'être là pour assister à cette rencontre autour d'une question un petit peu fondamentale, la liberté de la presse. Et à mes côtés avec moi, Antoine Chao, que je ne présente même plus, et José Ruiz, qui est un ancien de France Bleu Gironde, mais qui a été au cœur des luttes, qui l'est encore, puisqu'il a un regard, il a l'histoire, la mémoire des France Bleu, et il continue aujourd'hui de mener le combat devant les menaces qui pèsent sur le service public. Alors, on a préparé, sans préparer ce débat, d'abord autour d'une paella, parce que je trouve que c'est important quand même de faire ça de manière fraternelle, confraternelle. C'est un mot qui disparaît dans la presse, parmi les journalistes, la fraternité, la confraternité. C'est un peu le chacun pour soi qui l'emporte aujourd'hui, mais bon. Et en même temps, parler à la liberté de la presse, quand on regarde sur 15 ans en arrière, alors qu'avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, on a annoncé la mort de la presse écrite, mais beaucoup de fois, de nombreuses fois, il se trouve que ces dernières 15 années, on voit beaucoup de gens qui s'intéressent à la presse et qui rachètent des journaux. Et beaucoup de journaux, et qui fondent des empires. En sachant qu'un journal, notamment un quotidien, c'est quand même un gouffre économique. C'est quelque chose qui ne rapporte pas. Donc, ces nouveaux patrons, ils peuvent être propriétaires, patrons de BTP, comme Bouygues, hein, qui détient évidemment TF1 et 6 autres chaînes et radios. Arnaud, qui est propriétaire de LVMH, qui contrôle Le Parisien, Les Échos, Radio Classique, plusieurs magazines. Xavier Niel, qui possède Le Monde et quelques quotidiens régionaux. Dassault, lui, c'est l'historique, on va dire, qui possède Le Figaro. Drahi, qui a eu BFM, RMC, mais qui est racheté maintenant par Saadé, parce qu'entre eux, ils se rachètent, ils se vendent. Enfin, bon, c'est... Antoine a imprimé ce petit tableau assez extraordinaire proposé par Le Monde Diplo et Lacrimède, qui c'est cette toile d'araignée monstrueuse, fait froid dans le dos, parce qu'elle montre un petit peu comment l'effet de concentration entre quelques mains fait que la presse est de plus en plus uniformisée, ce qui pose la question effectivement de l'indépendance des journalistes. Et puis il y a celui que tout le monde connaît, c'est Bolloré, évidemment, non content de posséder Canal+, C8, CNews, Europe 1, Paris Match, Prisma Média. Prisma Média, c'était Les Loisirs, Géo, Voici, tous ces petits magazines qui pullulent dans les kiosques. Possède aussi Universal Music, Editis, le JDD, ce qui a fait qu'il y a eu une très grande grève et une démission d'une grande partie de la rédaction, qu'il est patron de Havas, enfin voilà, donc... Donc ça, c'est un peu pour le paysage national. Et la PQR, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, elle aussi est rachetée par des banques. Ça va être le Crédit Mutuel qui rachète dans l'Est de la France les DNA, Vosges Matin, l'Alsace, mais aussi le Progrès, le Dauphiné et Vaucluse Matin. Le Crédit Agricole qui lui rachète la Voix du Nord, Nord Éclair, le Courrier Picard. Et pour la PQR, ça se traduit par des plans de licenciement importants. C'est-à-dire que toutes ces rédactions qui étaient avant indépendantes sont regroupées au sein d'une rédaction mère, souvent soit à Strasbourg, soit à Marseille, enfin dans une grosse capitale, qui dispatche dans ces journaux les mêmes contenus d'information, c'est-à-dire qu'ils ont au moins plus de la moitié du journal, ce sont les mêmes pages, et on laisse aux localiers, ce qu'on appelle les journalistes localiers, des petites pages comme ça un peu perdues, c'est-à-dire que cette presse-là, qui était vraiment la presse de proximité, est soumise à des contraintes et budgétaires et éditoriales. Parce qu'effectivement, face à ces... On peut se demander pourquoi ils rachètent. Hein. Quel est l'intérêt ? Alors, chez Bolloré, lui, c'est très, très clair. Il y a une volonté, face à la déchristianisation de ce pays, face à ce grand remplacement qui est à l'œuvre, estime-t-il, il faut une information qui donne la parole aux patriotes, aux Français, aux vrais Français. Et donc, c'est comme ça que les Zemmour et les Hanouna ont occupé l'espace médiatique. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas mal. Alors, on pourrait penser que c'est juste avoir une danseuse, être propriétaire de Libé, c'est pas mal. Mais c'est aussi... Il y a des questions de pouvoir économique et des questions de pouvoir politique aussi. C'est-à-dire qu'on est dans l'entre-gens, on s'entraide, on se partage le gâteau et on diffuse. Et quand on regarde quand même la dernière campagne législative, on ne peut pas dire que beaucoup de journaux écrivaient de manière objective, hein, pour employer un mot extrêmement... utilisé dans les écoles de journalisme pour parler du nouveau Front populaire. Voilà, c'était toujours quand même avec des pincettes, avec... Bon. Alors, face à ces grands capitaines et patrons des médias, et on en reparlera parce que c'est pas nouveau, il reste quelques journaux indépendants, pas beaucoup, on peut les compter un peu sur les doigts de la main. Bon, évidemment, il y a l'UMA, il y a Politis, il y a La Croix. Et puis, il y a le service public de l'audiovisuel. Radio France, France Télévisions, nous agace tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, on l'écoute parce que c'est le service... Enfin, parce que voilà, parce que c'est un endroit où on peut entendre des voix un peu différentes. Mais en même temps, il nous met en colère parce que il ne remplit pas son rôle. Et il se plie à des diktats de plus en plus. On voit des directions qui cèdent à des diktats de l'audimat. Et puis, finalement, qui mettent leur nez dans la programmation et qui n'hésitent pas maintenant à licencier ceux qui ne leur conviennent plus et qui se moquent trop du pouvoir, qui sont trop irrévérencieux. Antoine, ça a été ton cas. Tu t'es quand même fait un peu lourder par ta chère direction.
Je crois que je me suis fait même déjà lourder avant, quand Macron est arrivé au pouvoir et il a décrété que le service la radio, l'audiovisuel public était une honte. Voilà, parce qu'il pensait que c'était quand même une radio gouvernementale, alors que c'est une radio de service public, donc c'est notre radio, quoi, c'est pas sa radio. Et donc ça avait quand même assez mal commencé à son arrivée. Après, bon, par étapes, effectivement, il y a eu la suppression de la redevance, hein, qui nous met vraiment en danger par rapport aux majorités législatives, hein, et on voit bien qu'on a eu très chaud dernièrement. Donc il y a eu toute une série, hein, de mises... comme ça, au pas de l'audiovisuel public. Alors moi, je parle plus de la radio que de la télévision, mais là, on voit bien qu'il y a un projet de fusion aussi, hein, qui est porté vaillamment par Rachida Dati, hein, qui veut fusionner donc la radio et la télé, et effectivement, enfin, l'audiovisuel public, Radio France et France TV, avec le risque que, effectivement, la radio soit l'enfant pauvre, hein, de cette fusion, et une fusion qui pourrait amener après à une privatisation, etc., une mise sous coupe, toujours d'une direction de l'info centralisée, quoi. Donc nous, on défend le service public. Hein, vive la radio de service public. Donc on se bat depuis quelques... Ça fait des années, hein, qu'on mène des longues grèves à Radio France, hein, pour défendre les moyens de production. Oui, oui, les moyens de production de la radio. Parce qu'à la radio, nous, on travaille tout encore on n'a pas externalisé, quoi. Donc on produit tout à l'intérieur, dans les murs de la Maison Ronde et dans toutes les France Bleues régionales aussi, ou locales. Donc il y a un vrai outil qu'on a su préserver jusqu'à aujourd'hui et qui est mis à mal, notamment aussi avec l'arrivée du podcast. Hein. Le podcast est aussi un coin qui permet de privatiser lentement et de façon irréversible, malheureusement, la production des programmes radio. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, en région, mais nous, on voit bien qu'à Paris, ils commencent à embaucher, ils commencent à sous-traiter. Et donc, c'est le verre qui est dans le fruit, quoi. Alors, après, effectivement, il y a eu des nouvelles attaques, là, dernièrement. Et on a vu, là, les 6 derniers mois, ce qui a pu se passer au niveau national, c'est passé en amont, quelque part, à Radio France, avec la stigmatisation des journalistes de gauche, et notamment, bon, de l'affaire Meurice, quoi, où il a été, dès le mois d'octobre, stigmatisé comme... un dangereux antisémite, voilà. Et on a vu ce que ça a donné quelques mois plus tard. Mais quelque part, ça a été un peu laboratoire, quoi. Cette chasse, donc, aux humoristes, à Meurice, et même aux journalistes de gauche, enfin, les peu qu'il y a, hein, sur le service public, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des injonctions de la droite et de l'extrême droite de dépolitiser France Inter, c'est-à-dire de faire de la radio de droite, quoi. Dépolitiser, c'est-à-dire que, voilà, hein, il faut parler macroniste. Et donc, on a vécu ça en interne, c'est-à-dire que l'injonction de Pascal Pro et de, pourquoi pas, Raphaël Enthoven, etc., qui disaient « on ne va pas payer une radio de gauche avec nos impôts », quoi. Donc, même si, effectivement, on était plus que 3 ou 4 de gauche, c'était déjà trop, quoi. Donc, on a été petit à petit débranchés, poussés aux marges, bon... Il y avait là-bas, si j'y suis avant, mais c'était l'étape précédente. Hein, c'était aussi retirer des voix dissidentes, des voix critiques, du reportage aussi, hein, parce que c'est important d'aller sur le terrain, d'aller donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, parce qu'on en a marre des éditorialistes et puis des invités du 7-9 ou du 6-9 le matin, où vraiment, on voit qu'on n'a pas les mêmes carnets d'adresses, quoi, avec Léa Salamé, quoi. On ne connaît pas les mêmes personnes, on ne lit pas les mêmes livres, et puis on ne voit pas les mêmes documentaires, etc. Donc ça, c'est en train de disparaître en ce moment. Donc moi, je fais partie de la charrette, donc avec Meurice, etc., pour d'autres raisons que... Moi, je n'ai pas été traité d'antisémite. Moi, j'ai été traité de... Enfin, pas traité, mais on trouve que ça coûte trop cher d'aller voir les gens, quoi. Donc, l'argent qui servait à payer nos reportages... Donc, c'est vrai qu'on est quelques-uns à se faire virer qui sont... Enfin, on n'est pas vraiment virés. Notre émission n'est pas reconduite. Hein. Tout ça, c'est quand même assez feutré. et donc qui sont des anciens de là-bas si j'y suis, et qui à Lyon et qui allons encore sur le terrain, quoi, donner la parole. Et ça, ça coûte trop cher parce que maintenant il faut des envoyés spéciaux en Ukraine. Donc voilà, l'argument de la direction, c'était nos envoyés spéciaux en Ukraine nous coûtent trop cher, donc on va te supprimer ton émission pour payer, je ne sais pas, une demi-journée peut-être de présence d'un journaliste en Ukraine avec toute la sécurité qui va avec. C'est vrai que ça coûte certainement très cher, hein, d'envoyer des gens en Ukraine. Et voilà, nous, on a vécu tout ça. On essaye de défendre nos positions. On essaye de garder un pied dans la grille, hein, dans la grille des programmes. Et effectivement, moi, j'ai été rappelé deux jours après la dissolution. Voilà. Donc, pour me demander de revenir, pour me proposer de revenir travailler à Radio France, qu'ils avaient besoin quand même d'aller sur le terrain, de donner la parole, qui est de l'humain, voilà, de l'humain. Donc effectivement, il y a eu la grosse inquiétude de la direction, que ce soit le RN qui soit majoritaire, et que vraiment là, la collaboration était un peu trop voyante et puis problématique pour eux, quoi. Donc ils nous ont un peu rappelé en disant que... Bon, alors après, ils ne nous rembauchent pas sur les mêmes conditions, bien évidemment, pas sur le même temps d'antenne. Mais ça, on va réfléchir en septembre si on accepte, si on continue à travailler. Mais comme c'est notre radio, donc on pense qu'on va rester, on va continuer à défendre nos voix, vos voix sur le service public, parce que les directions passent. Et nous, en général, on reste. Depuis là-bas, si j'y suis, là. Direction de France Inter par Philippe Val, on a vraiment là, on a senti les balles siffler. Mais voilà, donc on est resté. Bon, Daniel, l'émission là-bas, si j'y suis, donc heureusement aujourd'hui, on peut faire la voir si j'y suis, c'est quand même pas mal. On continue quand même cet esprit de travail de terrain. Donc moi, je fais Radio US depuis une vingtaine d'années. On va en parler après, hein, toutes les initiatives de presse indépendante qui sont menées sur tout le territoire, hein, écrites, radio, même télé. Il y a vraiment un travail qui est fait. Donc il faut résister. Et nous, on est là pour ça. Aujourd'hui, à UZEST. UZEST fait ça aussi. Hein, donc il y a une conjonction de forces, voilà, sur le territoire qu'il va falloir réanimer, animer et faire jouer.
José, est-ce que tu pourrais, parce que tu as évoqué la question de la fusion chère à Rachida Dati du service public de l'audio et visuel, en quoi cela représente un danger pour le service public tel qu'il existe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes opposé? Enfin,
La fusion entre France 3 et France Bleu repose sur l'idée que chacun de ces deux médias est un média de proximité. France 3 ayant des antennes régionales et France Bleu ayant 44 stations départementales. Il semblait naturel dans le discours officiel que ces deux médias se rapprochent. Alors, dit comme ça, effectivement, ça paraît presque logique, naturel, si on considère que les moyens sont mis en commun. Mais on sait bien que lorsqu'il s'agit d'une fusion, ce n'est pas une multiplication. En tout cas, on l'a vérifié et on continue de le vérifier aujourd'hui. Alors, je précise quand même que j'ai travaillé pendant 37 ans à France Bleu, à Radio France, et que je suis à la retraite aujourd'hui. Donc, les toutes dernières nouvelles... ne me sont pas connus. Hein, je suis à la retraite depuis 3 ans. Mais la politique qui est menée, elle continue comme un rouleau compresseur. Bon, voilà, ça c'est la parenthèse pour juste préciser comment je m'exprime et ce que je peux dire. Voyons. Donc, je disais que ces deux médias, il semblait presque un mariage de raison que de les réunir pour faire... pour grossir la puissance de ce nouveau pôle qui pourrait être créé. Mais ce qui s'est passé, et ce qui se passe progressivement, on est passé d'abord par l'idée que, aujourd'hui, la radio est aussi télévisée. Hein, et par conséquent, il faut mettre des caméras dans les studios. On veut voir les gens qui parlent, on veut... regarder la radio, enfin, ce qui, à mes yeux, est une aberration totale. Je ne vois pas l'intérêt de voir des gens, enfin, sauf quand on est ensemble ici, mais à la télévision, voir des gens qui se parlent dans un micro, il n'y a rien de plus, ça n'apporte rien. Mais bon, c'est un petit peu presque, je dirais, comme une sorte de cheval de Troie qui est arrivé. On a commencé à mettre dans les radios locales, on a fait une expérience. Alors, la CGT, s'est opposé à ces mesures-là. Parce que d'abord, il n'y avait aucun moyen qui était mis en face, en même temps. Et donc, on devait faire avec, comme d'habitude, avec un budget qui n'est pas du tout étendu, au contraire. Et d'ailleurs, à ce propos, je précise que pour l'année prochaine, le budget de Radio France, 2025, il n'y en a pas. On n'a aucune certitude sur le financement de Radio France l'année prochaine. C'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de la radio. Hein. D'ordinaire, on fonctionnait avec des contrats d'objectifs et de moyens qui étaient rarement respectés, d'ailleurs, de moins en moins ces dernières années. On fixe des objectifs, on met les moyens en face, et puis finalement, on supprime les moyens, bon, comme ça, de manière tout à fait arbitraire. C'est le fonctionnement qui a été mis en place dernièrement, jusqu'à cette année ou l'année prochaine. On ne sait pas, c'est-à-dire dans 6 mois, on ne sait pas du tout comment va être financée Radio France. C'est la première fois de l'histoire de la radio. Donc, j'en reviens à l'arrivée de la vidéo et des caméras dans les studios. Les caméras filmant pour France 3, l'émission qui se fait pour France Bleu. Donc, on a considéré que c'était une évolution naturelle et un supplément apporté à l'information. Mais sans budget supplémentaire, ce qu'on a fait, c'est on a constaté au fil du temps des suppressions de postes liées parce qu'il fallait faire des économies pour financer ça, liées à cette nécessité de financer la vidéo dans les radios locales. Et on s'est retrouvé. Moi, lorsque je suis parti de Radio France, la direction a annoncé la suppression de 350 postes au nom d'un plan de départ volontaire. Hein, voilà. Et donc 350 postes, même s'il s'agit beaucoup d'administratifs, de postes administratifs, c'est quand même une baisse considérable du budget consacré au développement, hein, a priori au développement de la radio. Donc le principe même de la fusion, c'est faire des économies au lieu de d'améliorer le service qui est revendiqué au départ, c'est-à-dire celui de la proximité. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée d'implanter des télés et des radios localement, c'était d'être au plus près de la population. Mais plus le temps passe, plus j'ai vu disparaître justement cette proximité, parce que quand on n'a plus les moyens, Antoine parlait tout à l'heure d'envoyer des journalistes en Ukraine, mais en local. De plus en plus, ce qui se passe à Radio France, à France Bleu, c'est que la plupart des reportages sont faits au téléphone. On ne va plus sur le terrain parce qu'on n'a pas les moyens. Et quand il faut 5 personnes et qu'il y en a 2 pour faire le travail, ces personnes-là le décrochent le téléphone. Alors comment ça se passe chez vous? Voilà, c'est ça le journalisme de proximité version France Bleu. Je ne m'étale pas au-delà. C'est pour donner justement comme ça un regard... comme ça, de surface sur la situation, on peut développer. Je n'ai pas tout présent à l'esprit parce qu'encore une fois, je suis ici comme ça à titre pour témoigner et je serais ravi de répondre aux questions auxquelles je pourrais répondre, mais j'ai rien préparé, donc voilà, je dis ce qui me vient et ce que m'inspire cette question de rapprochement France Bleu France 3. Qui, au lieu d'être, encore une fois, un progrès, est une régression considérable.
Alors, c'est aussi un peu le laboratoire, après, du rapprochement audiovisuel public, Radio France et France TV. Quoi, hein. Donc, vous êtes en train de d'essuyer les plâtres quoi, hein, de ce qui se prépare au niveau après national. Quoi.
Bien sûr,
enfin, national, radio national. Quoi.
Oui. Et si on parle de locaux à Bordeaux, puisqu'on est ici en Gironde, à Bordeaux, il y a déjà, depuis plusieurs... années, je dirais, la recherche d'un lieu pour rassembler les deux entités, France 3 qui se trouve rue Ernest Renan et France Bleu qui se trouve sur la rive droite. Il y a déjà des projets d'investissement de locaux particuliers pour rassembler les deux entités. Donc déjà, on a avancé, même si la chose ne se fait pas de manière publique. Hein, ce sont des tractations un petit peu souterraines ou en tout cas dans l'ombre.
Alors, sur ce que tu dis sur l'arrivée de des caméras dans les studios de radio, ça touche la presse écrite aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a un mélange des genres. la radio se met à faire de l'image, de l'écrit, et la presse écrite sur Internet, donc à des rédactions web dédiées, où on fait où on publie des articles, où on fait de la vidéo, où on fait des sons. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ce qui était avant extrêmement séparé. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans le métier, j'écrivais, point barre. Hein. Maintenant, on nous demande toujours de faire un papier pour le web. Tu voudrais pas faire un son. Bon, ce que je ne fais pas, mais peu importe. Mais, et c'est terrible parce que. On a des journalistes aujourd'hui qui sont extrêmement formés, bien formés, toute une nouvelle génération. Mais on a quand même une précarisation et une paupérisation des journalistes. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais le salaire moyen d'un journaliste, c'est à peine un SMIC. Enfin, ce n'est pas énorme. Hein. Et quand on est, et moi, je le vois autour de moi, notamment les journalistes culturels, comme on les appelle, ils sont obligés de multiplier les supports, c'est-à-dire les magazines, voilà, tous les journaux, comme ils peuvent, pour pouvoir arriver à peine à un SMIC. Et quand on habite Paris, on vit mal, on vit très mal. Et moi, j'ai connu des pigistes, il y a 30 ans, il y a 20 ans, on était pigistes par choix. Dans une rédaction. C'était vraiment, on avait une liberté et on vendait son article et point barre. Aujourd'hui, la précarisation, elle est subie par la plupart de nos confrères et consoeurs. Alors, quand on va dans les rédactions, mais que ce soit Radio France ou dans la presse écrite, les quotidiens nationaux, l'été, c'est plein de stagiaires, des gens très compétents, des jeunes gens qui sont là. Et heureusement, parce que au fil du temps, les départs à la retraite n'étant pas remplacés, la charge de travail retombe sur ceux qui restent. Et pour quand il faut qu'on prenne des congés, on a recours à des stagiaires que la plupart du temps, on ne paye pas parce qu'ils peuvent être un mois, deux mois maintenant sans être payés. Avant, c'était un mois, maintenant, c'est deux mois. Ils peuvent travailler sans être payés. Et puis, il y a maintenant les contrats d'alternants. Donc, on a beaucoup d'alternants qui sont là, qui bossent, qui sont en même temps en formation. Y compris pour la PQR, quand, au vu des mutations de cette presse-là, moi, je me souviens, pour moi, c'était une des meilleures écoles, la PQR, parce qu'on faisait tout, on touchait à tout, on était sur le terrain, on pouvait aussi bien suivre un meeting politique dans un petit bourg que l'inauguration de la Poste. Voilà, il y avait un côté très service public, enfin, très, très proximité. Tout ça, c'est en train de disparaître. Et ce que tu disais, c'est le reportage. Le reportage, ça coûte cher. C'est la parole humaine qu'on rapporte, ça ouvre des horizons, ça rend l'auditeur, ça rend le lecteur plus intelligent parce que ça lui apporte des éléments, des bouts de vie, des instants de vie, des instants de lutte, des instants de bonheur ou de révolte. Et aujourd'hui, tout ça tend à disparaître. Donc on a des jeunes journalistes qui arrivent aujourd'hui qui sont hyper bien formés techniquement, qui savent effectivement écrire, se servir des outils très très vite. Se pose la question du contenu de la formation, puisque aujourd'hui il existe 14 écoles de journalisme public. Les recrutements, on le sait, se font plutôt sur 3 écoles publiques, hein, c'est-à-dire c'est Lille, Paris et Bordeaux, je crois. Et encore, je suis pas sûre que ce soit Bordeaux. Pour vous dire comment c'est resserré, c'est très étrange parce que moi, je vois autour de moi, on commence un peu à perdre le sens de notre métier, puisqu'on nous demande de tout faire. De tout faire, et donc, finalement, on le fait un peu mal, on le fait vite. Il y a la course, il y a une notion qui s'est imposée dans les journaux, c'est le temps, il n'y a plus de temps. On n'a plus le temps pour réfléchir, pour se poser, pour aller vers les gens, pour parler avec les gens, pour être en confiance, parce que quand on va interviewer des gens... Il faut créer du lien. Il faut que les gens sentent qu'en face, nous, on est là pour écouter. Moi, on n'est pas là pour donner la leçon. On est là pour écouter, pour rendre compte de cette parole-là. Et ces paroles-là, elles existent de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de place. Et du coup, où on trouve le sens de ce qu'on fait, on court plutôt après l'info que balancent les confrères. Donc il y a la course au buzz pour tout le monde. Donc on en est là à courir après ce qu'a fait le Parisien, ce qu'a fait Libé, ce qu'a balancé France Info, ce qu'a balancé je sais pas quoi. Et ça, je trouve ça presque paralysant intellectuellement. On arrive à un état. Moi j'appelle ça un journalisme un peu moutonnier, où finalement on a l'impression que tous les journaux se ressemblent, tous les journaux nous racontent un peu les mêmes histoires, et ça nourrit y compris cette méfiance, cette défiance à l'égard des journalistes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine.
Alors, j'étais à la remise du prix Albert Londres cette année, donc ça, c'est une distinction pour les jeunes journalistes qui font vraiment un travail d'investigation de journalisme. Et en fait, sur les trois, il n'y en avait que deux qui avaient leur carte de presse parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme journalistes. Donc c'était vraiment, ça vient aussi de la précarisation. Donc les journalistes qui sortent des cartes de presse, ils essayent absolument de se faire embaucher sur les radios, les médias en général, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre et survivre du métier qu'ils ont appris à faire dans des quelques écoles qui sont effectivement bien répertoriées par la profession. Alors, ça les oblige à faire de la pige, du petit reportage, du micro-trottoir, etc. Donc, et on s'est rendu compte là qu'effectivement, il y avait un biais dans cette formation, dans ce formatage de la profession, qui fait que les grands reportages, donc notamment le livre de Nicolas Legendre sur le lobby agricole breton qui s'appelle « Silence dans les champs », je crois, qui est sorti en bouquin avec... C'est vrai, quelques pages qui étaient sorties, un feuilleton dans Le Monde, Nicolas n'a pas la carte de presse, parce que la profession ne le reconnaît pas comme journaliste, parce qu'effectivement, il n'a pas un parcours de journaliste habituel. Il a fait une enquête au long cours sur le terrain qu'il habite en Bretagne, autour du lobby dont on parle beaucoup, mais effectivement, qui se défend de ces pratiques qui sont écocidaires, etc. Donc lui, il a fait un vrai travail qui a été reconnu par le prix, et on s'est rendu compte que trois des lauréats n'avait pas été reconnu. Donc ça pose vraiment un problème de comment le journalisme est formaté à la base dans ces écoles, et comment le reportage au long cours disparaît des antennes. Et moi, j'ai enseigné dans des écoles de journalisme, etc. Et effectivement, tous les jeunes journalistes qui se lancent dans la profession, ils rêvent d'être des Albert Londres et de faire du grand reportage, de partir sur le terrain, de partir loin, de raconter le monde tel qu'il est, quoi. Mais c'est rarement ça après qu'ils sont contraints de faire dans les rédactions, et notamment les premières années. Après, il y a des journalistes qui sont extraordinaires. Florence Aubenas, elle fait un travail quand même assez extraordinaire de terrain. Bon, elle a déjà quand même une reconnaissance qui lui permet de faire ce qu'elle envie. Nous, on fait aussi, on a essayé de garder cette façon de faire, donc cette école de là-bas si j'y suis, donc aller sur le terrain, donner la parole. Ce qu'ouvrait Pierre Schaeffer quand il a libéré Paris, on a passé une archive là tout à l'heure, c'est-à-dire il faut rapprocher le micro de la fenêtre, il faut sortir dehors pour donner la parole à ceux qui n'ont pas, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça se perd dans la profession, dans la formation qui devient un peu du formatage, malheureusement. Il y avait le bouquin vachement intéressant de notre cher ami et ancien collègue Ruffin, qui avait fait les petits soldats du journalisme, voilà, où il était, lui, il avait écrit de l'intérieur comment le formatage opérait dans les écoles de journalisme.
Radio Uze, du 19 au 24 août 2024, sur la clé des ondes.
Je peux peut-être compléter ce que tu dis, Antoine, par... une expérience personnelle. Et lorsqu'on parle de la précarité des journalistes, il faut savoir que lorsqu'on est précaire, on est fragile. Et donc, on est soumis à l'injonction du rédacteur en chef qui, vous ne lui plaisez pas, ben, il ne vous reprendra pas. Donc, on a plutôt tendance à filet doux, hein, et à reprendre le discours officiel et à ne pas être trop critique. Hein. Je repense à une histoire qui m'est arrivée ici à Uzest. Je m'occupais de la culture sur France Bleu Gironde et de l'actualité culturelle, et j'étais venu faire ici un reportage avec une interview un petit peu longue de Bernard Lubat. Je diffuse l'interview dans laquelle il disait que la musique et le service public audiovisuel, et particulièrement la radio publique, et particulièrement les radios locales, ne diffusaient pas du tout la musique qui se faisait ici, et de manière générale, les musiques qui ne sont pas de la chanson, en gros. Ben, il le disait d'une manière bon, ferme, comme il a l'habitude de le faire. Hein. Voilà. Je diffuse ce sujet. À la fin de la diffusion, c'était en fin de journée, le directeur de la station m'a convoqué dans son bureau et il m'a demandé des comptes. Il m'a dit, qui c'est celui... Il venait d'arriver, hein, mais bon, c'est pas une excuse. Il venait d'arriver. Qui c'est ce Luba-là qui se permet de dire qu'il crache dans la soupe ? Il m'a passé un savon. Mais moi, j'ai défendu mon morceau parce qu'il ne m'a jamais impressionné, ce bonhomme. Je vous le dis clairement, il ne m'a jamais impressionné. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Non, c'est rigolo. Mais... lorsqu'il est arrivé, ce directeur, à France Bleu Gironde, lorsqu'il est arrivé, il a convoqué donc, les représentants du personnel. J'étais élu du personnel. Et il me dit « Je savais que j'aurais des problèmes avec vous, monsieur Ruiz. » Et je lui ai dit « Je vais essayer de ne pas vous décevoir, monsieur Valisseri. » Voilà, donc c'est bon, voilà le climat dans lequel bon, moi j'étais statutaire, CDI, je risquais pas grand chose, mais un précaire journaliste qui se permet de diffuser un sujet comme je l'ai fait moi, il était sûr de pas être repris. Hein, voilà. Donc c'était ça, je voulais préciser cette question-là. La précarité, c'est pas seulement des boulots qui durent 2 mois, c'est aussi la nécessité de baisser le ton. Voilà.
Et ça me fait... Bon, enfin, bref.
Ouais, je voulais dire, non, c'était... Je voulais compléter sur la précarité.
Ouais. Et juste pour préciser sur la carte de presse est délivrée parce qu'il faut justifier d'un certain revenu. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est soumis à un nombre de revenus. Enfin, un revenu. Donc, ouais, il faut que la majorité de tes revenus émane de ton métier de journaliste. Voilà. Et alors, comment on fait ? Comment on résiste face à tout ça ? Comment il y a quand même des endroits où ça passe pas. Où il y a des gens, il y a Uzest, mais il y a pas que. Il y a des radios libres. Je sais plus comment on peut les appeler. Des radios pirates. Il y a
des radios associatives. Hein, des radios associatives. Sylvie Noni là qui travaille à la Clé des Ondes, notamment à Bordeaux, et qui est une radio indépendante. Alors avec des petits moyens, etc. Avec toutes les difficultés. Hein, de faire ce métier sans être dans cette carte-là, quoi. Voilà, sans appartenir. Alors, elle est de décembre hein, 2023, mais ça y est, elle est périmée parce qu'il y a déjà eu un gros rachat. Donc, il y a la famille Saadé qui a racheté le groupe à Altice, donc à Drahi. Donc, BFM TV est passé sous le giron donc, de Saadé. Qui est transport maritime, donc faudra pas dire faudra pas parler de la pollution notamment et d'autres choses hein, du colonialisme, du néocolonialisme, etc. avec le transport maritime qui est géré par la famille Saadé. Donc BFM est passé aux mains de Saadé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah ouais, on a failli se réjouir quand même que l'Arcom a refusé la fréquence à C8. Mais non, ne vous réjouissez pas si vite. Parce qu'elle a donné une fréquence donc à comment il s'appelle un autre milliardaire là qui s'appelle Kretinsky. Ouais, Kretinsky. Ça va être une télé très printemps républicain. On va peut-être regretter Hanouna parce qu'au moins lui il était facile à cibler quoi. Voilà. Alors effectivement des alternatives, créer des médias indépendants. Alimenter ceux qui existent, hein, comme effectivement les radios locales, les radios associatives qui existent partout sur le territoire, mais aussi les médias. Il y a quand même des belles réussites, hein, alors avec peut-être des bémols, mais moi je lis, je suis abonné à des médias indépendants, à Mediapart, à Reporter, il y a tout un travail de terrain, il y en a d'autres, il y a beaucoup de médias locaux aussi, enfin hein, presse écrite, enfin hein, qui sont en ligne, hein, bien évidemment, ou qui peuvent aussi faire imprimer, mais il y a tout ce tissu, ce réseau qu'il va falloir aider, hein, qu'il va falloir s'abonner, va falloir même y participer, hein, je pense, parce qu'on pourra, dans les années qui viennent, je pense, s'il faut résister à des choses qu'on ne veut pas voir arriver dans le pays, ce ne sera pas Radio France, hein, ce ne sera pas l'audiovisuel public, parce qu'on voit comment il est mis sous coupe, notamment avec cette question de budget. Donc, on n'a pas le budget pour l'année 2025. On ne sait pas comment Radio France va pouvoir survivre. Alors, Radio France va survivre, mais sur quelle ligne éditoriale, là, ça va être la même hein, que la précédente, mais ça aurait pu être vraiment pire, effectivement, si le RN était arrivé majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, voilà où on en est, développer des médias, il y en a beaucoup, il faut se renseigner, de voir ce qui existe, et puis, je pense, y prendre part, quoi, autant qu'on est informé. Enfin, alors, je parle pas des... Après, il y a les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. On va peut-être pas rentrer là-dedans. Hein. Je pense qu'il faut pas non plus compter sur Twitter, sur X, avec Elon Musk, etc. Donc, c'est pas par là que ça va se passer. Donc, il va falloir recréer des réseaux de proximité, je pense, bah, ce qu'on fait aussi ici, pour essayer de faire que le pire n'advienne pas, quoi, et que le meilleur nous arrive.
Siamo tutti antifascisti.
Radio Use. Du 19 au 24 août 2024 sur la clé des ondes.
Je propose que vous preniez la parole, que vous interveniez parce que vous êtes lecteur, vous êtes auditeur, vous êtes spectateur et que vous avez peut-être... il y a un micro.
Ce que je trouve très grave qui se passe depuis quelques temps, c'est les procédures Bayon, qu'on appelle. Procédures nouvelles qu'engagent des patrons d'entreprises, des sociétés, quand elles apprennent qu'une enquête... va être menée par des journalistes professionnels, une enquête sur leurs activités, les conséquences de leurs activités. Là, je ne sais pas, tu auras peut-être quelques exemples à donner. Ils portent plainte. Donc, en général, au bout de quelques temps, très vite, la justice ne va pas empêcher ces enquêtes-là. Mais pour obtenir gain de justice, pour pouvoir justement mener l'enquête, ça coûte. Il faut s'adresser à des avocats, il faut engager une procédure. Ça coûte énormément cher aux journaux. Et c'est pour ça qu'il y a des appels dans l'UMA, là, depuis quelques mois, parce que l'UMA est confronté à une série de procédures Bayon.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus d'entraves économiques, juridiques pour empêcher les journalistes d'aller jusqu'au bout de leur travail. Et Rosa Moussaoui, après son enquête sur le RIF au Maroc, son ordinateur a été piraté par le Maroc, par les autorités marocaines, elle comme plein d'autres journalistes, hein, avec un logiciel en plus fabriqué par Israël. Donc elle est allée plusieurs fois chez les flics pour parce qu'il a fallu mettre sous sécurité ses informations, son ordinateur, son téléphone. Hein, elle a dû changer de téléphone. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que dès qu'on essaie d'aller très loin et de dénoncer des injustices, de la corruption, des choses comme ça, en face, ils sont hyper armés. Et des journaux comme l'UMA, mais même Mediapart, hein, parce que le modèle économique de Mediapart, il ne marche que pour Mediapart pour l'instant, si j'ai bien compris quand même. Ailleurs, je ne sais pas, toi peut-être tu sais un peu plus, mais je sais qu'eux, ils payent leurs journalistes. Enfin, Mediapart est quand même autonome. Financièrement.
Je voulais juste vous donner deux anecdotes relatives à ma carrière dans le journalisme. Moi, j'étais plutôt dans le privé, donc ça apporte aussi quelque chose de vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai commencé ma carrière, moi, parce que j'ai été instite pendant 10 ans et je suis rentré dans le métier en cours de route, ce qui est intéressant aussi parce que les parcours professionnels, souvent des journalistes, sont de l'aveu même de mes camarades du SNJ-CGT au début de ma carrière. Des gens de plus en plus formatés, le bouquin de Ruffin cité par Antoine en est révélateur. Juste deux anecdotes. La première, c'est quand je suis rentré le premier boulot que j'ai fait, j'étais pas tout à fait journaliste, j'étais documentaliste photo dans un super magazine qui existe toujours, qui s'appelle Politis, qui était à l'époque dirigé par Langlois, ancien journaliste de télé qui avait été renvoyé de la télé publique justement pour avoir fait une blague sur Grâce de Monaco. Et donc un jour, Langlois revient nous voir dans la rédaction et nous dit « C'est incroyable, Nestlé nous a proposé de racheter le canard. » Moi, je le regarde, j'étais tout neuf dans le métier, je dis « Mais quel intérêt ?» Je dis, le seul intérêt pour lui, c'est de pouvoir contrôler un média qui n'a rien à voir avec son métier, son cœur de métier, mais qui pourrait lui permettre au moins de contrôler, de savoir qu'on ne dira pas de conneries sur Nestlé dans son journal. Donc après, tout de suite, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et les exemples qu'ont donné Antoine, Marie-Josée, etc., sont révélateurs. La deuxième anecdote, c'est ma fin de carrière. Malheureusement, je suis passé de Politis à Télé 2 semaines, qui était un magazine de télé, ce qui prouve aussi la dégradation de notre métier. C'est-à-dire que moi, je faisais un boulot intéressant au début de ma carrière, et petit à petit, je faisais des boulots de plus en plus merdiques. Et la dernière, c'était quand même de faire des chaînes de télé, d'aligner des grilles de télé et de remplir et de vérifier l'info dedans. C'est pas vraiment passionnant. Heureusement que le syndicalisme m'a aidé à tenir dans ce boulot. Sinon, je pense que je serais parti. Et donc, l'anecdote est révélatrice aussi parce que mon rédac-chef, un jour, m'a convoqué dans son bureau et il m'a étalé devant moi les BAT, ce qu'on appelle les BAT dans le métier, c'est les bons à tirer, c'est-à-dire les feuilles avant qu'elles soient envoyées à l'imprimerie. Il m'a dit, tu vois là, vous passez beaucoup de temps sur les, gros, sur les petites chaînes d'en bas, là, tes mezzo, les petites chaînes de, qui ont pas beaucoup d'auditeurs, d'audimat, de téléspectateurs, il faudrait que vous passiez plus de temps sur TF1, sur France 2, sur les chaînes de l'époque, les grands médias dans lesquels il faut s'intéresser. Vous passez beaucoup de temps à vérifier les infos dans les petites chaînes en bas. Passez moins de temps là-dessus. Le mec était en train de nous dire que finalement, les petites chaînes qui font pas beaucoup de spectateurs, on en a rien à foutre. Arrêtez de perdre votre temps sur ces petites chaînes. Donc ça, déjà, ça m'avait choqué. Et la dernière anecdote, c'est, je pense à ça parce qu'Antoine a évoqué cette histoire de piratage. On a mené une grève la dernière année où la direction de Prisma à l'époque, c'était pas encore Bolloré, nous avait externalisé, c'est-à-dire ils nous ont vendu. Parce qu'en fait, c'était un foyer en plus syndicaliste. Moi, je n'avais pas eu trop de mal à syndiquer les camarades autour de moi parce qu'ils étaient payés une misère, ils n'étaient pas reconnus comme journalistes. J'ai réussi à leur obtenir des cartes de presse, ça a augmenté le salaire, donc ça a commencé à énerver un peu beaucoup. Et puis, donc, la rentabilité des grilles de télé devenait de plus en plus aléatoire avec le développement d'Internet. Et moi, j'ai fait un petit truc que je peux avouer maintenant parce qu'il y a prescription. Et à l'époque, j'ai saboté une grille. On était... Et j'ai rajouté dans une grille d'Arte, c'était ce qu'on appelle les loops, c'est-à-dire un petit résumé développé du truc. Il y avait le nom de Sarkozy, j'avais rajouté à côté, entre parenthèses, dehors, avec un point d'exclamation. Donc ça a réussi à passer et à être imprimé. Je ne vous dis pas le tohu-bohu que ça a provoqué dans la presse, dans les médias, autour de nous et dans la rédaction, évidemment. Le lendemain, la direction entière est remontée dans la rédaction qui était en partie en grève et en partie en lutte, en disant c'est inadmissible, ce genre de choses n'est absolument pas acceptable dans un journal. Donc ils ont effectivement enquêté pour savoir qui avait fait ça. Donc j'étais un petit peu isolé. J'étais à la CGT, j'étais un peu emmerdé parce que je ne l'ai même pas dit à mes copains de la CGT à l'époque parce qu'il ne fallait pas que ça filtre. Donc évidemment, les premiers accusés, ça a été les copains du syndicat. « Ouais, vous avez saboté le journal, etc. » Ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas possible. Après, moi, j'ai eu quand même un peu la trouille pendant 6-7 jours parce que je me suis dit « Ils vont finir par me trouver sur mon poste, peut-être. » Même si j'avais été sur un poste d'un collègue pour éviter que ça soit moi qui soit accusé. Et voilà, donc cette petite anecdote, je pourrais vous ressortir les articles à l'époque de téléspectateurs ou auditeurs ou lecteurs de télémagazines qui avaient dit « c'est inadmissible que vous mettiez des choses comme ça dans votre journal ou que ça passe », et les excuses de la direction du journal qui étaient aussi très drôles, voilà.
Oui, je voulais parler des radios associatives, c'est une autre petite facette de la question, mais ces radios associatives aussi sont sacrément menacées. Donc je parle des radios associatives non commerciales, celles qui n'ont donc pour revenu que les subventions qu'on leur accorde. Ces subventions viennent d'un peu partout, beaucoup de collectivités territoriales. Elles sont menacées en ce moment, ces subventions, par la loi dite contre le séparatisme. Puisque vous savez que cette fameuse loi qui oblige toute association à signer un engagement, un contrat républicain, en fait, ce contrat républicain, c'est non pas respecter les valeurs de la République, mais respecter et louer la politique gouvernementale. Et nous, par exemple, à la Clé des Ondes, on a une partie de nos subventions qui viennent de la mairie, qui viennent des collectivités territoriales, qui sont bloquées par le préfet. Et en plus, sans explication, c'est par des indiscrétions qu'on sait que c'est lié à l'interview de Abdourahman Ridouane, je ne sais pas si vous savez, le président de l'association des Amis de la Mosquée de Pessac, qui vient d'ailleurs d'être arrêté à nouveau, malgré un avis du Conseil d'État qui avait débouté Darmanin. Darmanin a remis la gomme et il est en ce moment au CRA, à côté de Roissy, prêt à partir pour le Niger. Et donc ça nous a valu le fait d'avoir interviewé cette personne, nous a valu la suspension de ses subventions. L'autre ressource des radios associatives, c'est le FSER. C'est un fonds qui est versé par le ministère de la Culture. C'est une énorme partie des ressources des associations. Vous voyez bien avec Rachida Dati, puis le RN, c'est, qui est un long chemin tranquille d'ailleurs, vers la même logique, tout ce qui sort du ministère de la Culture, comment, à quel point ça menace nos médias. Et donc on a véritablement des budgets terriblement difficiles à boucler. Il y a beaucoup de radios qui ferment boutique ou qui licencient des salariés. Et ce n'est pas une chose facile. Alors, on a parlé de la concentration des médias. C'est une vraie question. Il y a une époque, il y avait une loi antitrust dans les médias. C'était après la guerre. Où elle est passée, cette loi antitrust ? Les soulèvements de la Terre organisent une saison contre Bolloré, pour désarmer Bolloré dans l'année qui vient, bah, outre la saison contre la LGV les 12 et 13 octobre prochains, mais de façon plus globale, une saison pour désarmer Bolloré. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'idée d'une loi antitrust au niveau des médias ? Je n'ai pas souvenir que ce soit un gros point dans le programme du NFP, mais peut-être que je me trompe. En tous les cas, il faut faire grandir l'idée. Comment on peut faire, avec tous les acteurs que nous sommes ici, par exemple, pour faire grandir cette idée d'une loi antitrust ? Voilà.
Mais sur la loi antitrust, elle est totalement détournée, puisque... elle limite le nombre de journaux que quelqu'un peut avoir, mais il peut avoir 5-6 journaux, je dis chiffre au hasard, par exemple, maximum, mais en même temps, à côté, il peut avoir 3-4 chaînes de télé, 2 chaînes de radio. Donc, effectivement, il faut la revoir, la remettre sur le tapis, parce que sinon, c'est une perte.